إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد chers auditeurs, nous avons vu hier les premiers versets de Sourate Al-Qasas, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté le récit de la naissance de Moussa alayhi salam. Et nous avons vu comment ce dernier fut recueilli dans le palais de Pharaon, qui le prit en charge sans savoir qu'il était l'enfant dont il craignait la venue. Puis une fois que Moussa alayhi salam eut atteint sa pleine maturité, aussi bien physique qu'intellectuelle, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda la faculté de juger et une science abondante. Mais Moussa alayhi salam fit face à une épreuve, suite à laquelle il fut contraint de quitter l'Égypte. Il trouva un jour deux hommes qui se battaient. L'un d'eux faisait partie de son clan, c'est-à-dire des enfants d'Israël, et l'autre de leur clan adverse, c'est-à-dire des Coptes. Alors celui des enfants d'Israël demanda à Moussa alayhi salam de lui venir en aide. Et Moussa donna un coup aux Coptes qui le tuèrent, et ce en raison de la grande force de Moussa alayhi salam. Moussa fut immédiatement pris de regret suite à cela. Et il dit, « Cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi déclaré qui fait tout pour égarer les hommes. » Puis il se repentit aussitôt. Il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en disant, « Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah. Innahu huwa al-ghafur al-rahim. » Il dit, « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. J'ai été injuste envers moi-même. Pardonne-moi. » Allah lui pardonna alors, c'est vraiment lui le pardonneur, le miséricordieux. Le lendemain, la même scène s'est reproduite à nouveau, avec un autre copte. Et alors que Moussa alayhi salam s'apprêta à le frapper, le copte l'exhorta en lui disant qu'il ne voulait en réalité qu'être un tyran sur terre et ne pas être un bienfaiteur. Car sinon, il se serait contenté de les séparer sans frapper personne ni tuer personne. Moussa alayhi salam fut alors sensible à cette exhortation et le laissa en paix. Toutefois, la nouvelle se répandit dans la ville. Alors un homme vint en courant du bout de la ville pour avertir Moussa alayhi salam que les notables du peuple de Pharaon se concertaient à son sujet pour le tuer. Il lui conseilla donc de quitter la ville et Moussa alayhi salam suivit son conseil. Il quitta donc la ville craintif, de peur de se faire tuer, et invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Rabbi najjini min al-qawmi al-dhalimin »« Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. » Ici, on pourrait se poser la question « Pourquoi dit-il qu'ils sont injustes alors qu'il a tué un des leurs ?» La réponse est que Moussa alayhi salam, premièrement, il s'est repenti de son péché. Et deuxièmement, il a commis cela involontairement. Il n'avait pas pour objectif de le tuer. Par conséquent, vouloir tuer Moussa alayhi salam était ici une injustice de leur part. Moussa alayhi salam prit donc la route pour Madian, qui est une terre qui se trouve au sud de la Palestine et où Pharaon n'avait pas l'autorité. Il y trouva donc refuge et se maria là-bas, et c'est ce que nous allons voir, incha'Allah ta'ala, dans les versets que nous allons méditer aujourd'hui, toujours dans Sourate Al-Qasas, à partir du verset 22, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ » Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Regardez ici Moussa alayhi salam qui part, qui quitte l'Égypte, qui craint de se faire tuer. Il part sans rien, mais il a une bonne pensée de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il a confiance et espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que doit être le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala le guida donc sur la bonne voie, l'honora et le sauva du peuple injuste. Il arriva donc à Médian, où il trouva des gens en train d'abreuver leurs bêtes. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, « وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ » Et quand il fut arrivé au point d'eau de Médian, il y trouva un groupe de gens abreuvant leurs bêtes. Les habitants de cette contrée étaient des éleveurs et possédaient beaucoup de bétail. Et ces hommes se réunissaient donc autour de ce point d'eau pour abreuver leurs troupeaux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ إِمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. Et il trouva, à l'écart de ces hommes, deux femmes retenant leurs bêtes. Étant donné que ces hommes ne laissaient pas la place à ces femmes pour qu'elles puissent abreuver sans se mélanger à eux, elles étaient donc obligées d'attendre que ces hommes finissent afin de pouvoir abreuver leurs bêtes. Lorsque Moussa les vit, il leur dit alors « Ma khatbukuma, que voulez-vous » Il leur demande ce qui les retient, ce qu'elles veulent, pourquoi elles sont là. Et médite ici sur le fait que Moussa alayhi salam ne leur adressa que cette simple parole, sans avant-propos et sans aucune complaisance. Et ceci nous indique que lorsqu'un homme parle avec une femme étrangère, s'il y a un besoin à cela, il ne doit lui parler qu'en fonction de ce besoin. Il ne doit pas discuter avec elle avec complaisance ou plaisanter avec elle et ainsi de suite, comme on peut le voir aujourd'hui, Wallah al-Musta'an. Mais il ne lui adresse que les paroles nécessaires. Il leur dit simplement ici, « Que voulez-vous ? » Et celles-ci lui répondirent, « La nasqi hatta yusdira ar-ri'a. » Nous n'abreuverons que lorsque les bergers seront partis. C'est-à-dire lorsque ces hommes seront partis, la voie sera libre et nous pourrons venir abreuver nos bêtes. On voit donc que ces deux femmes avaient été éduquées sur la pudeur et qu'elles savaient qu'il ne convient pas à la femme de se mélanger aux hommes, mais qu'elle doit se tenir éloignée de la mixité. Et c'est ainsi que les femmes doivent se comporter et c'est ainsi également qu'elles doivent être éduquées. Ensuite, elles présentèrent à Moussa alayhi salam leur excuse qui justifiait leur présence en ce lieu. Et elles lui dirent « Wa abuna shaykhun kabir » et notre père est fort âgé, c'est-à-dire que leur père n'avait plus la force afin de pouvoir lui-même abreuver leurs bêtes et qu'il n'y avait aucun homme pour s'en charger pour elles. C'est pour cela qu'elles sont sorties de chez elles. Elle lui explique donc qu'elles ne sont présentes ici que pour un besoin qui est d'abreuver leurs bêtes et que parce qu'il n'y a aucun homme qui peut le faire à leur place. Moussa alayhi salam fit donc preuve de clémence envers elles et s'empressa de leur venir en aide. Fasaqa lahuma, il abreuva donc leurs bêtes. Thumma tawalla ila dhil. Puis, il retourna à l'ombre. Il retourna s'abriter à l'ombre en raison de la forte chaleur, également car il avait besoin de se reposer en raison de sa faim. Et on voit ici que Moussa alayhi salam, il n'attendit pas de leur part de rétribution ou de remerciement. Il abreuva leurs bêtes et leur rendit, c'est tout. Cela est suffisant. Puis, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. » Oh mon Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Une fois de plus, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'invoque avec humilité, en lui montrant sa pauvreté, son besoin de lui, son humilité devant son Seigneur, en lui montrant qu'il est dans le besoin, dans la nécessité, dans la difficulté. Il est important pour le croyant, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, de manifester cela, de s'humilier devant Allah, de reconnaître que l'on a besoin d'Allah, que l'on ne peut rien sans Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci fait partie des causes d'exaucement de la vocation. Allah subhanahu wa ta'ala aime de toi lorsque tu l'invoques, que tu lui fasses part de tes besoins, que tu lui manifestes ta pauvreté, que tu lui manifestes ta difficulté, que tu lui manifestes ta tristesse, ton chagrin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Ya'qub alayhi salam, comme on l'a vu dans un cours précédent. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Ma tristesse, mon chagrin, mes besoins, je ne m'en plains qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et je l'invoque. Et ici, Moussa alayhi salam dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, j'ai grand besoin. J'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Je n'ai rien d'autre à part ton secours. Je n'ai rien d'autre à part l'aide que tu vas m'apporter. Oh Allah. On voit donc que son cœur était attaché à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. N'avait pas le cœur comme les cœurs de beaucoup d'entre nous aujourd'hui attachés aux causes, attachés au matériel. Mais il savait que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut sortir son serviteur de la difficulté. Et pendant ce temps, les deux femmes étaient rentrées auprès de leur père et leur avaient expliqué qu'un homme avait abreuvé pour eux leurs bêtes. Donc on voit que Moussa alayhi salam, alors qu'il était en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda immédiatement la délivrance. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَا. Puis l'une des deux femmes vient à lui d'une démarche timide. En effet, le père de ces deux femmes, lorsqu'il apprit que Moussa alayhi salam leur avait rendu ce service, il envoya une de ses filles pour le chercher. Et celle-ci vint en marchant timidement, avec pudeur. Et on rapporte qu'elle avait couvert son visage avec la manche de son vêtement. Elle ne vint pas en s'exhibant. Elle ne vint pas comme beaucoup de femmes aujourd'hui le font lorsqu'elles s'adressent aux hommes, en lui parlant avec complaisance. Mais elle vint avec pudeur, timidement. Et ceci, en raison du fait qu'elle n'était pas habituée à cela. Pas habituée à entrer, sortir, se balader, se mélanger aux hommes, et leur parler sans raison ou sans nécessité. Elle vint donc d'une démarche timide, puis lui dit « Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana » « Mon père t'appelle. » Elle précise immédiatement que c'est son père qui l'a appelé. Ce n'est pas sa démarche personnelle. Cela ne vient pas d'elle. Mais c'est son père qui l'a appelé. Elle dit cela afin d'éloigner tout doute et toute suspicion. Et pour fermer la porte à toute tentation du diable. C'est mon père qui m'a envoyé. Je ne viens pas de moi-même. Et il t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Et on voit ici leur bon comportement. Du fait qui lui montre que ce n'est pas une faveur qu'ils lui font. Ce n'est pas en raison du fait qu'ils l'ont vu en difficulté et qu'ils veulent lui faire une faveur. Mais c'est son droit qu'il le récompense en raison du service qu'il leur a rendu. Moussa alayhi salam accepta donc de se rendre auprès de son père. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et quand il fut venu auprès de lui, auprès du père de ses deux femmes, et qui lui ait raconté son histoire, lui a raconté ce qui s'est passé en Égypte. L'homme lui dit, « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. Tu es maintenant en sécurité, car cette terre, la terre de Médiane, n'est pas sous l'autorité de Pharaon. Il ne pourra donc pas venir te causer du tort ici. » Suite à cela, l'une des filles dit, « Ya abati, ista'jirhu, inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin. » L'une d'elles dit, « Oh mon père, engage-le à ton service, c'est-à-dire engage-le comme employé, en échange d'un salaire, afin qu'il puisse garder nos troupeaux et les abreuver. Comme ça, nous n'aurons plus besoin de sortir. » Car c'est ainsi qu'est la femme vertueuse. Elle souhaite rester chez elle, ne pas sortir sans nécessité, sans raison. Et elle laisse son mari ou les hommes de sa famille se charger des tâches extérieures pour elle. Puis elle dit, « Car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. » En effet, ces deux qualités sont les deux qualités qu'il sont nécessaires de retrouver chez l'employé. La force, c'est-à-dire qu'il ait la force pour pouvoir accomplir la tâche qu'on lui demande, car sinon, ce ne sera pas un bon employé, et qu'il soit digne de confiance, afin qu'il puisse accomplir cette tâche comme il se doit, qu'il ne trahisse pas le dépôt, qu'il fasse preuve d'honnêteté, car si ce n'est pas le cas, et qu'il trahit, son travail ne sera pas accompli comme il se doit. Ceci sont donc les deux qualités que doit rechercher toute personne qui cherche un employé, la force et l'honnêteté, que cet employé soit digne de confiance. Et on rapporte que lorsqu'elle dit cela, son père l'interrogea et lui dit « Comment sais-tu cela ?» C'est-à-dire le fait qu'elle dise « Le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. » Cela sous-entend que Moussa alayhi salam est fort et digne de confiance. Il lui demande donc « Comment elle sait cela ?» Et elle répondit que pour pouvoir abreuver leurs bêtes, il a soulevé un rocher qui ne peut être soulevé que par 10 hommes. C'est-à-dire qu'au-dessus du puits, les hommes en partant, ils mettaient un gros rocher dessus. Et ils se réunissaient à 10 autour de ce rocher pour le porter. Mais Moussa alayhi salam, qui était très fort, il le porta tout seul. Ceci nous prouve donc sa force. Et en ce qui concerne le fait qu'il soit digne de confiance, elle dit que lorsqu'elle l'a appelé pour qu'il vienne, elle marchait devant lui. Mais Moussa alayhi salam lui a dit « Marche derrière moi, afin de ne pas la voir, qu'elle ne soit pas sous ses yeux. » Et il lui dit « Et lorsque nous arrivons à un croisement, indique-moi le chemin en jetant des petits cailloux vers la direction à suivre. » Allahu Akbar. On voit qu'il voulut éviter tout regard et toute parole inutile. À partir du moment où il y a un moyen de se passer de parler avec une femme étrangère, alors il faut emprunter ce moyen et se passer des paroles inutiles sans nécessité. Telle est la pudeur de laquelle doivent se parer le croyant et la croyante. Suite à cela, l'homme lui dit alors qu'il voulait lui marier une de ses filles, à condition que Moussa alayhi salam travaille à son service durant 8 ans. On voit donc que ceci est la dot qui fut demandée, que Moussa alayhi salam travaille au service de cet homme durant 8 années. Il est donc permis que la dot soit un service. Il lui dit, si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. Moussa alayhi salam lui dit alors, ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَ الْأَجَلَيْنَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. Ceci est conclu entre toi et moi. Quel que soit celui des deux termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi, et Allah est garant de ce que nous disons. Moussa alayhi salam se maria donc avec une des filles de cet homme et resta durant 8 ou 10 années à Médiane au service de cet homme avant de retourner vers l'Égypte. On tire donc de nombreux enseignements de ce récit. Premièrement, on voit qu'il est nécessaire pour le croyant de prendre garde à ne se mêler des querelles entre les gens si ce n'est avec équité. D'autant plus si la querelle en vient aux mains, car, comme vous le savez, les choses peuvent rapidement dégénérer jusqu'à avoir des conséquences néfastes, wallah al-musta'an. Donc le musulman, il doit s'écarter de cela, s'écarter de toute échauffourée ou de toute querelle entre les gens, et ne s'en mêler et n'intervenir que si cela est nécessaire et avec sagesse et équité. Même si tu vois un de tes amis ou une personne de ta famille en train de se faire frapper, tu ne dois pas immédiatement prendre sa défense et frapper son adversaire, au risque d'être injuste. Il se peut que ce soit ton ami ou cette personne de ta famille qui est en tort. Donc tu dois simplement prendre le soin de les séparer et agir avec sagesse, en t'éloignant de toute forme d'injustice, qu'elle soit verbale ou physique. Le deuxième enseignement, qui est un enseignement que l'on a déjà vu dans plusieurs récits à travers les nobles comportements des prophètes, alayhimus salatu wassalam, et c'est l'obligation de s'empresser au repentir après avoir fait un faux pas. Tu ne dois pas tarder. À partir du moment où tu sais que tu as fauté, tu dois t'empresser de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les péchés et les fautes sont inévitables. Nul parmi nous n'en est à l'abri. Toutefois, si cela arrive, tu dois reconnaître ta faute, cesser ton erreur, cesser ton péché, avoir des regrets pour le passé, avoir la ferme volonté de ne plus recommettre ce péché et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu fais cela, alors tu seras comme celui qui n'a pas commis de péché, à condition bien sûr de remplir les conditions du repentir. Et on voit également qu'après le repentir d'une personne, il ne convient pas de lui faire des reproches pour son péché passé, si ce n'est de lui demander de réparer les torts causés avec justice et équité. On ne doit plus lui reprocher ce péché duquel il s'est repenti. Le troisième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est l'importance de l'invocation. En toute situation, et notamment lorsque tu es en difficulté. Regardez ici Moussa alayhi salam, qui à chacune des étapes de cette épreuve, revient vers Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant. Montre à son Seigneur qu'il a besoin de lui. Car nous ne pouvons rien sans Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne nous aide pas à l'adorer, nous ne pourrions pas l'adorer. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas de quoi boire et de quoi manger, nous ne pourrions pas subsister, et ainsi de suite. Tout ce dont nous jouissons comme bienfaits religieux ou mondains, cela fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a favorisés par ses grâces. Donc, si tu te retrouves face à une difficulté, tu dois savoir que l'issue ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te convient donc de l'invoquer avec humilité et avoir une bonne pensée et une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le quatrième enseignement. On voit une fois de plus l'importance de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir une bonne opinion d'Allah. Car, comme il est venu dans le hadith, Allah est avec son serviteur selon l'opinion que son serviteur se fait de lui. C'est-à-dire que si tu as une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec toi en fonction de cette bonne opinion. Tu places ta confiance en Allah, que tu as espoir en lui, que tu penses du bien, que tu crois en sa promesse. tu verras la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala se réaliser sur toi. Mais si le serviteur a une mauvaise opinion de son Seigneur, qu'il ne place pas sa confiance en Allah, qu'il s'en remet aux causes, qu'il désespère du secours d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à ces causes auxquelles il s'en remet. Et il n'y a pas de doute que la personne qui se retrouve abandonnée à des causes ne verra que ses difficultés augmenter. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc regardez ici comment Moussa alayhi salam a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a quitté la terre d'Égypte où il craignait pour sa vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala le guida et lui accorda refuge à Médiane, où il trouva un travail moyennant salaire et une épouse vertueuse avec qui il s'est marié. Il était en danger et ne s'est pas posé de questions. Il ne s'est pas dit « Où vais-je aller ? Comment vais-je me nourrir ? Chez qui vais-je dormir ?» ou d'autres choses comme cela que l'on pourrait se demander car sa vie était en danger. Il était donc impératif de partir rapidement. Donc si telle est la situation lorsqu'une personne voit sa vie en danger, que dire d'une personne dont c'est la religion qui est en danger, dont la croyance est en danger, dont les enfants sont en danger pour leur religion et leur comportement? Il n'y a pas de doute que le danger est bien plus grave et bien plus immense. Et il ne faut aucun doute qu'une personne dans cette situation, elle doit fuir, de la même manière que Moussa a fui, alayhi salam, et placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a vu hier, au sujet de l'émigration des terres de mécréance aux terres d'islam, la personne se doit de croire avec certitude en la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le cinquième enseignement que l'on tire de ce récit, qui est un enseignement immense également, c'est une grande leçon de pudeur et de bonne mœurs. On voit comment les gens vertueux doivent faire en sorte de s'éloigner de toute tentation et de toute suspicion. Pour cela, s'éloigner de la mixité, s'éloigner des endroits où la personne pourrait se retrouver dans une situation qui porte à confusion. Également s'éloigner du fait de parler aux femmes étrangères ou aux hommes étrangers en ce qui concerne les femmes. Également l'importance de baisser le regard, s'éloigner de toute parole qui n'est pas nécessaire. Il est important pour le croyant de s'éloigner de tout cela, afin de préserver sa foi, afin de préserver sa chasteté, et afin de se parer de ces nobles qualités dont se parent les serviteurs vertueux, qui s'ils doivent parler à une femme étrangère, ou inversement en ce qui concerne les femmes, si elle doit parler à un homme étranger, ne parlent que selon leurs besoins, sans aucune complaisance, qui s'éloignent de toute situation qui pourrait porter atteinte à la pudeur. Parfois certaines personnes disent « Comment faire pour baisser le regard face aux troubles qui sont très nombreux ? » Éloigne-toi de ces lieux de troubles, tout simplement. Commence par t'éloigner de ces lieux de troubles et ne t'y rendre qu'en cas de nécessité, non pas pour te promener, pour passer du temps, pour te balader, ainsi de suite. Écarte-toi de ces endroits. Regarde Moussa alayhi salam ici qui demande à cette femme de marcher derrière lui, alors que c'est elle qui est censée le guider. On pourrait dire donc qu'il y avait un besoin, mais il a trouvé une solution. Il lui a dit de marcher derrière et de jeter un caillou pour lui indiquer la direction à prendre. Donc pourquoi toi, tu vas te mettre en danger et te mettre dans des endroits où tu auras du mal à ce que tes yeux évitent de voir certaines choses? Également, ce qui concerne les femmes, pourquoi elles se mettent en danger, même pour celles qui restent à leur domicile, et se mettent devant ces écrans à regarder des vidéos où elles voient des hommes, même si c'est un cours religieux? Quelle est l'utilité de voir le visage de l'enseignant ou du cheikh ou du savant? Quelle est l'utilité? Il n'y a aucun besoin en cela. Comment les femmes apprenaient la science auparavant? Elles l'apprenaient de derrière un rideau. Elles n'avaient pas besoin de voir le visage de l'enseignant, du cheikh ou du savant. Donc même dans cette situation, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce que c'est un cours religieux que je peux me permettre de regarder le cheikh ou le savant ou l'étudiant ou le prédicateur ou je ne sais quoi. Écouter sa parole est suffisant. Et de la même manière dans les paroles, dans les échanges. Ce n'est pas parce que je parle de religion que je peux parler avec un homme étranger ou avec une femme étrangère, sans aucune pudeur ou avec complaisance. Si cela est nécessaire, qu'une femme a besoin de poser une question à une personne de science, alors elle le fait avec pudeur, sans aucune complaisance, en posant simplement sa question, et de la même manière pour les hommes. Donc ceci sont des valeurs morales qu'il est nécessaire pour nous d'adopter. Et cela demande certes du travail en raison des sociétés dans lesquelles nous avons grandi et nous avons été éduqués, qui sont des sociétés perverties, wallah al-musta'an. Il faut revenir aux valeurs de notre noble religion. Ces comportements des prophètes, alayhim wassalatu wassalam, ces comportements des hommes vertueux que l'on trouve à travers leur biographie. Comme on a dit, leurs histoires, leurs récits On ne les apprend pas simplement pour connaître des événements historiques, mais c'est pour les prendre pour modèle, pour en tirer des leçons. Et ceci fait partie des leçons de ce récit. Le sixième enseignement est que l'éducation de la fille est différente de l'éducation du garçon. Chacun doit être éduqué en fonction de sa nature et en fonction des obligations religieuses qui seront attendues de lui une fois qu'il sera pubère. C'est donc une erreur que font beaucoup de parents aujourd'hui d'éduquer leurs filles comme ils éduquent leurs garçons, ou encore d'habiller leurs filles comme ils habillent leurs garçons, et ainsi de suite. Même s'ils sont petits, il faut donner à la fille sa nature et au garçon sa nature, et leur apprendre, dès tout petit, que chacun a des droits et des devoirs qui sont différents, afin de les préserver une fois qu'ils seront grands, d'avoir des attitudes dans leur foyer ou dans leur vie au quotidien qui ne correspondent pas à l'attitude qu'un homme ou qu'une femme doit avoir. Comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de foyers où la femme a pris le rôle de l'homme. Combien de nos sœurs aujourd'hui mènent une vie de père de famille, en plus de sa vie de mère. Elle se lève le matin, elle s'occupe de sa maison, elle s'occupe de ses enfants, et ensuite, elle part travailler, elle part faire ses courses, et ainsi de suite. Et l'homme, où est-il? Qu'en est-il de son devoir d'homme? Qu'en est-il de son devoir de chef de foyer? Allahu a'lam. Beaucoup d'entre eux ont délégué leurs devoirs et leurs obligations à leurs épouses, wallah al-musta'an. Donc il est nécessaire de savoir que chacun a une nature différente et chacun a des droits et des devoirs religieux qui sont différents. Et bien sûr, pour apprendre cela, il faut s'instruire, apprendre la science, suivre des cours, lire des livres, et ainsi de suite. Donc ceci sont des points sur lesquels il est nécessaire pour le croyant de se corriger. Le septième bénéfice, le septième enseignement, c'est la recommandation de venir en aide à ceux qui sont en difficulté, et de s'empresser dans cela. Regardez Moussa alayhi salam, quand il a su le besoin de ces deux femmes ici, il s'est empressé de prendre leurs bêtes et de les abreuver. Sans rien attendre en retour, tu ne dois rechercher à travers cela que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certaines personnes, parfois, qui ont des facilités pour venir en aide aux gens, pour les sortir de difficultés, pour leur venir en aide financière, ou en aide physique, ou en aide morale. Mais après, ils attendent quelque chose en retour. Ils attendent des remerciements. Ils attendent qu'on les complimente pour le fait qu'ils aient été généreux ou qu'ils aient été serviables. Et ceci démontre un manque de sincérité. Si tu es sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois rien attendre de la part des gens. Car tu ne recherches en leur rendant service ou en les sortant de difficultés que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même si la personne est ingrate, même si la personne a un mauvais comportement, cela ne diminue en rien ta récompense. Tu as fait cela pour qui? Pour cette personne ou pour te rapprocher d'Allah? Si tu fais cela sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, même si la personne est ingrate, cela ne doit te causer aucun tort. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de ses serviteurs vertueux en faisant leurs éloges dans Surat al-Insan, « Innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. » Nous ne vous nourrissons que pour le visage d'Allah. Et nous n'attendons de vous ni rétribution, ni remerciement. Pas même des remerciements. Certaines personnes, parfois, elles sont gênées. Je lui ai rendu service, il ne m'a même pas dit merci. Ce n'est pas grave, cela ne diminue en rien ta récompense. Pourquoi tu attends un merci? Sheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit de ce verset que si lorsque tu rends un service à quelqu'un, après lui avoir rendu ce service, tu lui dis « invoque pour moi, invoque en ma faveur », alors tu ne fais pas partie de ceux mentionnés dans ce verset. Car tu as attendu quelque chose en retour. Cela arrive parfois, quelqu'un, tu lui rends un service, il te dit « qu'est-ce que je peux faire pour toi en retour ?» Et tu lui dis « invoque pour moi, je ne veux que des invocations. » Ici, tu lui as demandé quelque chose. Tu lui as demandé une invocation donc, tu perds ce mérite. Ne demande rien en retour, mais fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le huitième enseignement, et ce sera le dernier pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, qui concerne cette personne qui a profité de ce service, c'est que quant à elle, il lui convient et il est recommandé pour elle de rendre l'appareil. Regardez ici le père de ces deux femmes qui envoie une de ses filles pour chercher Moussa alayhi salam afin de le rétribuer pour ce service qu'il aura rendu. C'est-à-dire que celui qui rend le service, il ne doit rien attendre en retour. Mais celui qui profite du service, il est recommandé pour lui de rendre l'appareil. Il doit être reconnaissant, il doit faire preuve de gratitude. Si quelqu'un te rend un service, si tu as la possibilité, tu dois le rétribuer en bien. Et ceci fait partie des nobles caractères desquels doit se parer le croyant. Et si tu n'as rien à lui rendre en retour, que tu ne peux pas lui rendre l'appareil, alors au minimum, tu invoques pour lui. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est bienfaisant envers vous, alors rendez-lui l'appareil. Et si vous ne trouvez pas de quoi lui rendre l'appareil, alors invoquer pour lui jusqu'à ce que vous pensiez que vos invocations suffisent pour lui avoir rendu l'appareil. C'est-à-dire qu'une personne, si elle a été bienfaisante envers toi, qu'elle t'a rendu service, que tu n'as rien à lui rendre en retour ou que cela n'est pas possible, ce n'est pas dans tes capacités, invoque en sa faveur. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il la rétribue en bien, afin qu'il lui accorde sa pleine récompense, et ainsi de suite. On voit donc que ce récit était un récit riche en enseignements, et les enseignements, en réalité, ils sont encore nombreux. Mais on va se contenter de cela, inshallah ta'ala, et on verra, dans le cours de demain, la rencontre de Moussa alayhi salam avec Pharaon et les sorciers. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.